Merci beaucoup, Mathieu Laurent. On vous retrouve à 9h pour le prochain journal. Bonjour à toutes et à tous.
This is Bob Woodward of the Washington Post.
Bob est un bon journaliste, un type bien et un rédacteur compétent.
Nous avons quelques informations sur ce sujet par d'autres sources et bien sûr, on veut faire des recoupements.
This is terrific stuff. Where did you get it?
Trouvez une autre source. Ben merde.
Ce type est bon. Il est aussi bon journaliste que tous ceux avec qui j'ai travaillé.
Le secret des sources.
Frédéric Barrère.
Bienvenue dans le secret des sources et les coulisses de l'information. C'est un événement sportif majeur qui débute ce week-end en Angleterre et on ne pouvait pas passer à côté de la Coupe du Monde de rugby, 8e édition. Le rugby est souvent présenté comme un sport très viril, mais de plus en plus de femmes se passionnent pour le rugby, y jouent et le commentent. Canal+, France Télévisions, le journal L'Équipe, Eurosport et Radio France. Il y a de plus en plus de femmes journalistes dans le sport et notamment le rugby, où elles ont gagné plus de visibilité, même si couvrir le rugby pour une femme n'est pas toujours simple, comme l'a montré l'actualité récente au Rugby Club de Toulon. Quelle place pour les femmes journalistes dans le rugby et dans le sport? On en parle ce matin dans le secret des sources avec nos invités. Dominique Sartel, bonjour.
Bonjour.
Journaliste à L'Équipe qui a fait peau neuve, vous nous en direz un mot. Cécile Gray, bonjour, journaliste rugby à Eurosport.
Bonjour.
Fanny Lechevestrier, journaliste rugby à France Bleu 107.1, bonjour.
Bonjour.
Et vous suivez Fanny, le Stade français, champion de France en titre avec nous. En duplex de Londres, un grand spécialiste du rugby également, Pierre Galli, bonjour.
Bonjour Frédéric Barrère.
Chef de reportage au service des sports de l'AFP et auteur avec Jean-Pierre Dorian de Sud-Ouest de Rugby, 150 ans d'histoire aux éditions du Nouveau Monde. Dans les coulisses de l'émission, les indispensables Mathias Mégy, Vincent Abouchard, avec aux manettes aujourd'hui Emmanuel Morse-Duncan. Le clin d'œil de la semaine en fin d'émission signé Yacine Bouzard. Vos commentaires, vos réactions sont les bienvenus sur notre site franceculture.fr. N'hésitez pas à nous écrire. Vous êtes chez vous sur France Culture et dans le secret des sources.
Le mondial de rugby de retour dans le pays qui a créé ce sport.
À partir de ce soir, la terre ne sera plus bleue comme une orange, mais ovale comme un ballon de rugby.
Le monde du rugby a rendez-vous en Angleterre.
C'est parti pour 44 jours de frénésie.
Les choses sérieuses peuvent enfin commencer.
Ce sont des bruits, des regards, des moments exceptionnels dans une carrière.
Est-ce que vous tiendrez le rythme? C'est ce qu'on va voir dans quelques instants.
Le secret des sources.
Voilà beaucoup, beaucoup de voix de femmes dans cette présentation de la Coupe du Monde de rugby. Alors le rugby ne donne plus l'image d'un sport peut-être sexiste ou machiste, en tout cas très viril, même s'il y a encore des dérapages, on y reviendra. Dominique Sartel, Fanny Lechevestrier, Cécile Gray, les femmes ont trouvé leur place aujourd'hui comme journalistes dans le rugby, Dominique Sartel de L'Équipe?
Oui, je pense il y en a de plus en plus, donc c'est qu'elles trouvent leur place et qu'elles sont aussi reconnues, en tout cas j'espère.
Fanny Lechevestrier de France Bleu.
C'est vrai qu'il y en a de plus en plus et je pense que les joueurs, les staffs techniques font plus la différence en fait entre une journaliste femme et une journaliste homme, une fois qu'on a gagné leur confiance peut-être.
Cécile Gray, c'est la télévision qui emploie le plus de femmes journalistes dans le rugby. Vous travaillez pour Eurosport?
Oui, j'ai travaillé avec Dominique à L'Équipe en presse écrite aussi. Et malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, mais c'est vrai que la télé, pour l'image, féminise beaucoup son antenne. En presse écrite, on était moins nombreuses qu'en télé, mais c'est vrai qu'on voit de plus en plus de filles sur les terrains de rugby, à l'image de Clémentine Sarlat ou Isabelle Iturburu.
Ouais, on est loin de, le mot n'est pas très joli, mais de la potiche qui ne connaît pas grand-chose à ce sport aujourd'hui.
Bah heureusement, il ne faut pas de toute manière, puisqu'on ne dure pas si on l'est et on a surtout absolument pas le respect de nos interlocuteurs si on l'est. Donc l'idée, c'est d'être compétente. Après, il faut rester assez lucide en télé. Si on est là, c'est aussi parce qu'on cherche à féminiser. Mais les compétences sont très, très importantes.
Il faut travailler plus peut-être dans ce sport quand on est une femme, Fanny Lechevestrier?
Je dirais au départ, en tout cas, il faut faire ses preuves et ensuite tout roule, mais il faut faire ses preuves. On est attendu au tournant.
Dominique Sartel?
Je ne sais pas s'il faut travailler plus, il faut... Enfin, moi, je dirais que non. on travaille normalement. Et enfin, j'espère qu'il ne faut pas travailler plus parce qu'on est une femme. Il suffit de s'y intéresser, en fait, de s'intéresser aux gens à qui on parle, aux jeux dont on parle. Voilà, on peut aussi faire des papiers techniques, même si c'est plus compliqué. Souvent, je trouve que quand on pose des questions techniques à un joueur, peut-être qu'il répond plus précisément parce qu'on est une femme et qu'on écoute aussi plus attentivement. Parce
il fait plus attention dans ses réponses alors.
Oui, et nous on écoute plus attentivement parce que on part pas du principe. Un journaliste homme qui suit le rugby pense parfois qu'il connaît les règles par cœur, qu'il est très très fort techniquement, tactiquement, qu'il peut sélectionner l'équipe. Une femme, elle se positionne pas comme ça, donc elle écoute ce que lui dit le joueur ou l'entraîneur et peut-être qu'elle le retranscrit de manière plus simple pour les lecteurs.
Cette semaine, les gars. Pendant cette semaine, vous allez commenter la Coupe du Monde pour mon papa. Alors on donne tout et on y met du cœur. Eric, tu décryptes, tu nous régales. Seb, t'es un guerrier, t'es pas une danseuse.
Je veux de l'intensité.
On commente ensemble, on vit ensemble, on meurt ensemble.
Les garçons, pas de chichis sur les interviews.
On appuie là où ça fait mal. On y est ? On n'y est pas ?
On y est !
J'entends rien ! On y est ? On n'y est pas !
On y est !
Seb, ta cravate, s'il te plaît.
Voilà, Seb, c'est Sébastien Chabal. Alors, extrait d'une bande-annonce pour la Coupe du Monde sur Canal+. Et c'est une petite fille là, qui est mise en avant pour présenter l'équipe de Canal qui va commenter le Mondial. Où là, pour le coup, il y a beaucoup d'hommes dans l'équipe. Est-ce que la femme journaliste dans le rugby, et notamment à la télévision, arrive à endosser un rôle d'experte de ce sport, Cécile Gray?
Je suis pas sûre que ce soit ce qu'on nous demande, et c'est pas tellement ce qu'on demande à un journaliste. Même c'est pour cela qu'en télé, il y a une bonne dissociation entre le rôle de journaliste et de consultant. Souvent en télé, le binôme c'est un journaliste au commentaire et un consultant, qui sont régulièrement des anciens joueurs, pour parler de cet aspect technique. On est plus là pour commenter, faire vivre l'événement et apporter des informations sur l'événement en lui-même, plutôt que dans l'analyse purement technique. En tout cas, moi, c'est pas ce qu'on me demande à Eurosport.
Comment êtes-vous arrivée au rugby, vous, Cécile Gray?
C'est traditionnel, comme beaucoup de gens. J'ai toute ma famille qui vient de Brive. J'ai vécu les grandes heures de Brive, surtout champion d'Europe.
Donc, culturel chez vous,
c'est
alors.
C'est culturel. Ouais. Et voilà, après ma maîtrise de lettres, j'ai fait un stage à l'équipe et je suis restée pendant 3 ans.
Et vous, Dominique Isartel, pour l'équipe, le rugby, l'histoire commence
Un peu par hasard, moi, ouais. Ce qui me plaisait, c'était le sport. Et quand j'étais enfant, j'aimais beaucoup le foot et Saint-Étienne. J'aimais beaucoup le tennis, mais j'ai fait un stage à l'équipe parce que je voulais être journaliste de sport à l'équipe. J'ai réussi à faire un stage là-bas. Et en face de moi, il y avait un monsieur qui s'appelle Pierre-Michel Bonneau, qui est une des grandes plumes de l'équipe et qui avait presque 30 ans de moins et qui m'a emmené avec lui voir les matchs et aux entraînements du Racing, l'équipe du 92, on va pas dire parisienne, mais à l'époque c'était la seule sur Paris. Et petit à petit, ça m'a beaucoup plu. C'était très convivial, très chaleureux. On allait au bord du terrain pour voir les entraînements. Je restais dans les repas d'après-match, d'avant-match. On allait en stage avec eux. C'était beaucoup plus accessible le rugby que
parce que moins professionnel.
Parce que pas professionnel, effectivement, oui, pas du tout. Et donc, on était accueillis à bras ouverts, il n'y avait pas du tout de tabou, de langue de bois. C'était une autre époque.
Montpellier qui récupère un ballon de contre. Attention, Benjamin Fall qui se faufile dans la défense parisienne. Il est bloqué tout de même à l'entrée des 40 mètres du Stade français. Mais Montpellier qui continue à faire avancer le ballon. Le petit coup de pied de Benoît Payog qui va aller trouver la touche. Très jolie touche trouvée à 10 mètres de l'en-but du Stade français Paris. Encore une fois, Montpellier qui est reparti sur les mêmes bases qu'en première période. Et ça, c'est inquiétant pour Paris.
Fanny Le Chevestrier, on vient nous entendre là. Vous entend actuellement commenter le match Stade français Montpellier le week-end dernier. Et vous connaissiez ce sport avant de commenter les matchs? Vous connaissiez le rugby quand vous êtes arrivé?
Contrairement à Cécile Gras, c'est pas du tout culturel chez moi. Nous, je suis originaire de la région parisienne et c'est plutôt football. J'ai été élevée dans le football, l'athlétisme, mais pas du tout le rugby. Et c'est plutôt une nécessité de service, j'ai envie de dire, quand j'étais à France Bleu 107.1, et une décision de mon chef, de mon rédacteur en chef, qui m'a poussée. Je pense que c'est aussi comme ça, c'est parce qu'il y a des hommes, parce qu'on est souvent dirigé par des hommes, qui prennent la décision de nous imposer sur un sport et sur le sport en général. Et là, le rugby, c'est comme ça qu'il y a de plus en plus de filles, parce que c'est des décisions d'hommes.
Et mais c'est les bonnes décisions. Donc vous arrivez dans un sport que vous découvrez avec des règles quand même très compliquées, Fanny.
Oui, j'ai beaucoup pleuré aujourd'hui.
Donc vous avez travaillé.
Au tout début. Oui, moi j'ai vraiment dû potasser, mais à la limite comme un homme qu'on aurait mis sur une discipline qu'il connaissait pas. Si on vous met sur le hockey sur glace, je suis pas sûre que voilà, tout le monde connaisse toutes les règles. Mais donc oui, j'ai dû beaucoup potasser. Au début, j'ai pleuré, j'ai eu peur, mais comme dans tout, on s'y met.
Pierre Galli est avec nous en duplex de Londres où la France joue ce soir son premier match de la compétition face à l'Italie à Twickenham. Pierre Galli, cela fait 20 ans que vous suivez le rugby. Vous avez vu les femmes journalistes arriver dans ce sport. Dans les années 90, Pierre, le rugby est vraiment un sport réservé aux hommes. Les femmes sont quasi inexistantes.
Quasi inexistante, non. Disons que moi, j'ai commencé à suivre le rugby de près il y a une vingtaine d'années. Et à ce moment-là, enfin, c'était surtout à la fin des années 90, au début des années 2000, il y a deux journalistes qui sont arrivés. Il y en avait une qui travaillait à Canal+, l'autre qui travaillait à Midi Olympique. Et tout de suite, moi, je trouve qu'elles ont trouvé leur place parce qu'elles étaient tout simplement journalistes, elles étaient pertinentes, elles étaient cohérentes et puis elles ont rapidement été acceptées, notamment dans l'encadrement du 15 de France. C'était l'époque Laporte, c'était l'époque où il y avait des joueurs comme Ibanez, Pelouse, Magne, etc. Et elles, qui étaient des gens assez ouverts. Et en fait, moi, je trouvais, parce qu'elles étaient des bonnes journalistes, qu'elles ont rapidement trouvé leur place, et que ce soit avec leurs confrères, avec les joueurs, etc. Ça s'est passé de façon assez naturelle.
Combien de femmes journalistes à l'AFP pour suivre la Coupe du Monde avec vous, Pierre Galli?
Avec nous, à
oui,
l'AFP,
oui.
Zéro.
Zéro
pour la Coupe du Monde. Mais il y a deux femmes au service des sports de l'AFP en francophone, il y en a d'autres en anglophone. Mmh. Voilà, c'est pas un choix, parce que c'est tout simplement parce que les femmes à l'AFP se sont dirigées vers d'autres sports. Elles couvrent par exemple la natation, l'athlétisme, les problèmes généraux du sport, le judo, des sports comme ça, mais il y en a aucune, parce qu'en fait à l'AFP on peut choisir. Mmh. On est nommé précisément sur certains sports et les gens ont la capacité, au contraire de Radio France, d'après ce que j'ai entendu avec notre consoeur, à l'AFP, on a la possibilité de choisir le sport que l'on va couvrir, même si ça arrive que occasionnellement des consoeurs soient amenés à couvrir des matchs de rugby.
Dans les années, fin des années 80, début des années 90, le rugby a l'image d'un sport de terroir avec des dirigeants qui ont l'accent du sud-ouest. Et le rugby féminin existe pas non plus, ou est pas regardé. Vous diriez, Pierre, que l'arrivée des femmes journalistes permet de moderniser l'image du rugby aujourd'hui?
Oui, complètement. Mais c'est un sport qui s'est ouvert, mais au-delà des femmes journalistes, il y a aussi le sport qui s'est féminisé en lui-même. Moi, j'ai souvenir à la fin des années 90, au début des années 2000, que l'équipe de France féminine a commencé à faire ses déplacements avec l'équipe de France masculine sur les matchs du tournoi des Six Nations. C'est-à-dire qu'en baisser de rideau des matchs de la grande équipe de France, moi, je me souviens d'avoir vu jouer l'équipe de France féminine à Twickenham, de les avoir vu jouer à Édimbourg, et puis donc petit à petit, cette idée de la féminisation du rugby est arrivée. Nous, moi, je me souviens qu'on était en tribune de presse, on rédigeait nos papiers, et puis on jetait un œil sur ce rugby qui était sympa. C'était une autre forme de jeu, beaucoup plus aéré, beaucoup plus peut-être spontané. Et puis on jetait un œil, et puis on lançait ensuite nos deux yeux, et puis ça nous intéressait petit à petit. Ben, ce rugby féminin, il est rentré dans les mœurs, c'est jusqu'au succès de la Coupe du Monde l'an dernier.
Qui a fait un carton d'audience sur France.
Il y a eu un gros intérêt pour le rugby féminin l'an dernier. Donc tout ça est allé de pair, je dirais, au cours des années.
Dominique Isartel, poursuivre le tournoi des cinq nations à l'époque. C'est vieux, ouais. Qui suit pour l'équipe? C'est Dominique Bonneau?
Non, pas du tout. Dominique Bonneau, elle est dans un service à l'équipe qui s'appelle Prolongation, qui est un petit peu les à côté du sport, les coulisses du sport. Et son rédacteur en chef, Christian Montaignac, a une obsession, faire entrer une femme au banquet du tournoi des Cinq Nations, parce que c'est strictement...
La troisième mi-temps, enfin le banquet d'après-match.
Juste le repas. La troisième mi-temps, après les femmes peuvent se greffer, mais le repas avec les discours, les officiels, c'est strictement interdit aux femmes. Ouais. Et il se dit même que la reine d'Angleterre n'y a pas accès. Donc lui, ça l'énerve, il veut absolument faire entrer quelqu'un. Il propose à Dominique Bonneau, qui n'est pas journaliste de rugby, mais c'est mieux puisqu'elle n'est pas connue, son visage n'est pas connu des joueurs... de l'époque, de se déguiser. Donc elle va louer un smoking, elle se fait une moustache avec du bouchon brûlé. C'était pas très... C'était pas un déguisement super au point, mais bon, bref, elle a de la gomina sur les cheveux, elle avait les cheveux courts tout en arrière, donc elle rentre. Moi, j'en avais parlé à Jean-Pierre Garuet, qui avait mis aussi dans le coup, je crois, Laurent Rodriguez, et elle rentre avec
eux. Vous êtes l'instigatrice.
Ouais, peut-être complice. Et elle rentre avec eux, elle s'assoit à la table des joueurs, et puis très vite, ça commence à rigoler, j'imagine. Elle a tenu, je crois, 10 minutes avant d'être démasquée et mise à la porte.
Mise à la porte, carrément.
Oui, gentiment, mais mise à la porte, bien sûr. Ouais.
Fanny Chevestrier, comment ça se passe, une conférence de presse du Stade français, par exemple?
Ça se passe bien, souvent, ça dépend, on est plus ou moins nombreux.
On fait attention à vous
ou... Ah oui, il n'y a plus de soucis. On nous dit, quand on arrive au début, effectivement, on ne vous repère pas, donc c'est bonjour messieurs. Et maintenant, dames, et puis mesdames maintenant, puisqu'il y a Dominique Isartel qui m'a rejoint depuis le début de la saison. Mais non, il n'y a pas de soucis, on est bien accepté et bien traité.
32-16, salut Laure.
Bonjour Laure.
Bonjour.
Supportrice du Paris Saint-Germain?
Ouais.
T'es supportrice de Karim Benzema aussi, non?
Non, au contraire. Benzema est une grosse blague. Il n'a pas marqué depuis juin 2012 en
d'accord,
équipe de France.
D'accord.
Il est pas titulaire du Real Madrid.
Alors pour ça, tu ne veux pas qu'il soit titulaire demain soir? C'est ça.
Je pense que par rapport à d'autres, il ne se démène pas autant.
Bernard, tu peux lui répondre à l'heure
Non, c'est difficile, un attaquant qui marque pas.
Parce que l'heure, elle joue ensemble dans son club aussi.
Je ne discute pas avec les femmes de football.
C'est pas beau ça, Bernard.
Non, mais je le dis parce que c'est une chose, c'est mon caractère, c'est comme ça, c'est ma façon.
Oui, je suis
de leur casserole, et puis voilà, ça ira beaucoup mieux.
Voilà, on change de sport. Là, c'est le football. C'est Bernard Lacombe, ancien international de foot et l'un des dirigeants actuels de l'Olympique Lyonnais. Ce que vous avez entendu a été diffusé sur RMC en 2013. On entend quelques rires gras. On avait beaucoup parlé de ce dérapage à l'époque. Dominique Sartel, je vous voyais réagir.
Oui, parce que ça arrive. Alors, je pense que ça arrive... vraiment de moins en moins, enfin j'espère. Mais moi, ça m'est arrivé...
Quand vous refusez de vous parler parce que vous êtes une femme.
Oui, ça m'est arrivé deux fois avec un joueur de rugby, mais un vieux joueur de rugby qui est décédé, donc je ne voudrais pas... Mais c'était Jean Prat, quand même, un très grand joueur de rugby français, troisième ligne, qui avait refusé de répondre. Ma question portait sur le fait de jouer troisième ligne et de passer deuxième ligne occasionnellement sur un match. Et c'était Herbani qui devait passer deuxième ligne sur un match de l'équipe de France. Donc on avait voulu faire un sujet technique pour expliquer ce décalage. Mais il avait refusé de me répondre. Voilà. Donc j'avais appelé d'autres personnes. J'avais pas trop insisté. Puis ça m'est arrivé en cyclisme aussi avec Charlie Mottet, un coureur... cycliste français, voilà, qui m'avait refusé une interview parce que j'étais une femme et je ne pouvais pas comprendre.
Fanny Lechevestrier, ça vous est arrivé également, ce cas de figure?
Oui, avec un manager notamment qui n'est plus au Stade français. Il me conseillait, en fait, il me disait, tu vois, tel joueur, sa femme l'a quitté, donc tu pourrais lui au moins lui poser des questions comme ça serait mieux que de lui poser des questions sur le match. Donc ça, le genre de réflexion. Et puis après, voilà, il y a une certaine méfiance au début quand ils nous connaissent pas. Et du coup, si la question qu'on pose leur déplaît, ils vous renvoient un petit peu dans vos 22 sèchement pour essayer de vous faire douter. Ça m'est arrivé dernièrement pour la demi-finale. Finale du championnat de France face à Toulon et face à un manager que pourtant vous avez loué, Bernard Laporte, qui m'a conseillé de mettre ma maison en vente. Enfin, une histoire, c'est pas grave.
Cécile Cré, vous, c'est l'expérience inverse, je crois. Ça se passe toujours bien.
Ça s'est toujours bien passé en presse écrite, mais peut-être par chance pour l'instant. À la télé, je découvre le pouvoir de l'image, donc ils peuvent pas être désagréables. À la télé, c'est interdit. Ils veulent pas passer pour des machos et pour des personnes de mauvaise compagnie. Donc ils sont toujours très sympathiques. Après, quand les caméras s'éteignent, c'est déjà arrivé que certains me reprochent certaines questions, mais je leur réponds toujours que je suis là pour les poser et qu'il faut qu'ils fassent avec. Donc, Donc,
Vous êtes journaliste bord terrain hein, pour Eurosport. C'est-à-dire, vous nous racontez les secrets de la touche pendant le match.
Ouais. Ce qui est très, très impressionnant la première fois. Parce que là, pour le coup, on est vraiment seul au milieu d'hommes, prêts à rentrer sur le terrain, donc très motivés, plein de testostérone, des entraîneurs très tendus parce que les matchs sont tous très importants aujourd'hui, tous les matchs comptent, des arbitres très concentrés, une clameur et une ferveur qui nous entourent, donc c'est une atmosphère très particulière, il faut rester très très concentré. Au début, c'est assez impressionnant.
Ouais. Il y a la violence des chocs.
La violence des chocs que je connaissais, puisqu'on en parle de plus en plus dans les médias. Il y a eu un très bon l'équipe explore sur les chocs dans le rugby. Sur le bord de touche, on les voit, mais en plus, on les entend. Donc, ça peut être très crispant. Et voilà, j'ai vu mon premier KO il y a une semaine à 2 mètres de moi. Et quand on voit les yeux se révulser, ça fait assez froid dans le dos.
Le secret des sources, Frédéric Barrère.
Alors quand on commente le sport et notamment le rugby, il y a un lieu incontournable qui fait partie du jeu maintenant, c'est les vestiaires, puisque les caméras y vont, ça fait partie du spectacle, les téléspectateurs y est habitué, on interview les joueurs. Dominique Issartel, comment vous gérez cette phase dans le rugby, les vestiaires, est-ce que vous y allez?
Non, on n'y va plus, alors je pense que les télés y vont parce qu'elles payent, elles ont le droit de rentrer dans les vestiaires. Mais tous les journalistes de presse écrite sont priés d'attendre soit à la porte, soit dans une petite salle qui est dédiée aux interviews d'après-match, où tout le monde pose... Enfin, un joueur est face à tous les journalistes qui posent des questions et les réponses sont... Ça n'a rien d'individualisé, à part si on se débrouille bien pour avoir quelqu'un à part. Mais je suis rentrée dans des vestiaires quand j'ai débuté, dans les fins des années 90. J'ai débuté au quotidien Le Sport en 87. Je suivais le Stade Toulousain, le Racing. Et au Stade Toulousain, je me souviens, c'était un petit peu gênant. Moi, je n'y allais pas si j'avais pas besoin d'y aller. Puis je n'y allais pas, j'étais pas fière quand j'y allais. Donc j'avais trouvé un système et c'est Didier Codorniou qui, quand les joueurs étaient plus ou moins habillés, passait la tête à la porte et me disait que je pouvais venir. Et là, je pouvais travailler, mais on avait plus de temps pour travailler. On pouvait attendre un petit peu plus. Maintenant, on doit vite envoyer des réactions sur Internet, on doit faire des choses. Enfin voilà. Puis de toute façon, on n'a absolument plus accès au vestiaire. C'est un endroit secret.
Pierre Galli, en duplex de Londres, vous vouliez intervenir sur cette modernisation, cette nouvelle image du rugby?
Oui, je voulais intervenir. Je pense qu'il y a quelqu'un qui a fait beaucoup pour l'image du rugby, enfin, en tout cas pour sortir de l'image, j'allais dire, très, très ancrée dans le Sud-Ouest, c'était Max Guasini. C'est lui qui en 2005 avait réussi à remplir le Stade de France pour des matchs du Stade français contre le Stade toulousain, souvent, à partir de 2005, et à mettre entre les mains des gens un drapeau rose. Si on avait dit 10 ans avant, dans le monde du rugby très macho, très fermé, qu'on mettrait 80 000 personnes dans le Stade de France pour agiter un drapeau rose dans le cadre d'un match de rugby avec un public très féminisé, eh bien, je pense que les gens auraient crié au fou. Et je pense que Max Guasini, il a effectivement largement participé à un changement des mentalités dans le rugby. Et à ouvrir ses mentalités.
Et toute l'équipe d'ailleurs jouait avec un maillot rose.
Toute l'équipe a joué avec un maillot rose, et je me souviens que la première fois où ce maillot a été sorti, je crois que le Stade français était allé jouer à Perpignan. Ils avaient gagné parce qu'ils se devaient de gagner, ils avaient une tunique rose sur les épaules, mais il y avait eu pas mal de colibés qui étaient descendus des tribunes, mais petit à petit, en fait, cette idée s'est imposée, qu'on pouvait jouer en gros avec toutes les couleurs et avec tout le monde au rugby, et donc après que les joueurs pouvaient être interviewés par tout le monde après le match.
Fanny Le Chevestrier, vous suivez le Stade français, vous êtes d'accord avec l'importance de Max Guasini?
Oui, c'est vrai qu'il a eu un rôle pour populariser le rugby, notamment dans des terres qu'on dit qui ne sont pas acquises au rugby en région parisienne et dans toute la moitié nord de la France. Il a fait beaucoup pour populariser et donc pour féminiser le sport. Ouais.
Alors, Cécile Gray, on parlait juste avant des vestiaires. Vous travaillez pour Eurosport, pour la télé. Vous y allez, vous, dans les vestiaires?
Non. Non, c'est convenu avec ma direction. Je rentre pas dans les vestiaires, comme disait Dominique tout à l'heure. Je me sentirais assez mal à l'aise d'y aller. Là, pour le coup, on arrive à la limite d'être une femme dans ce milieu-là. Je sais que si un bord-terrain était un homme, il irait peut-être plus facilement. Mais moi, c'est ma décision personnelle de ne pas y aller. Si je voulais, je pourrais, mais je ne souhaite pas y aller.
Fanny Le Chevestrier.
Moi, j'ai fait un France-Irlande au Stade de France. Et à cette époque-là, on allait encore dans le vestiaire, mais on m'avait pas prévenu. On m'avait juste dit, tu feras les interviews d'après-match pour Radio France. Et donc, j'ai su après qu'il y avait eu une autorisation de demander auprès des Bleus, du staff tricolore, pour y rentrer. Et c'est vrai qu'on n'est pas très à l'aise, même s'il y a d'autres journalistes, mais les confrères m'avaient tendu un petit piège et m'ont laissé toute seule au milieu du vestiaire.
Oui, Dominique Sertel.
Non, je disais, c'est pas très sympa. Ouais. C'est vrai que c'est pas facile d'être au milieu d'hommes tout nus. On est une nana au milieu.
Habillée.
Franchement, moi, j'ai toujours évité d'y aller.
Ouais.
Toujours.
Quelle place pour les femmes journalistes dans le rugby et dans le sport avec nos invités du Secret des Sources sur France Culture. Dominique Sertel du journal L'Équipe, Cécile Gray d'Eurosport, Fanny Le Chevestrier de France Bleu et Pierre Galli de l'AFP. You can't touch this. Touch this. You can't touch this. You can't touch this. My music hits me so hard, makes me say, oh my Lord, thank you for blessing me with a mind to rhyme and to hype me. It feels good when you know you're down. A super dope homeboy from the Oak Town, and I'm known as such, and this is a beat you can't touch. I told you, homeboy, you can't touch this. Yeah, that's how we living, and you know you can't touch this. Look in my eyes, man, you can't touch this. Yo, let me bust the funky lyrics. Fresh new kicks and bands, you got it like that. Now you know you wanna dance, so move out of your seat and get a fire going and catch this beat while it's rolling. Hold on, pump a little bit and let the noise go on like that, like that. Hold on a minute, just fall on back. Let them know that you're too much, and this is a beat they can't touch. Touch this. Why you standing there, man? You can't touch this. Yo, sound the bell. School is in, sucker. You can't touch this. Give me a song, a rhythm, making them sweat. That's what I'm giving them now. They know. You're talking about the hammer. You're talking about a show that's hyped and tight. Singles are sweating so fast, them a wipe or a tape. To learn what it's gonna take in the 90s to burn the charts. Legit. Either work hard or you might as well quit. That's word, because you know. You can't touch this. Can't touch this. Break it down. Stop. Hammer time. Go with the flow. It is said if you can't prove the list, then you probably are dead. So wave your hands in the air. Bust a few moves. Run your fingers through your hair. This is it. For a winner. Dance to this, and you're gonna get there. Un gros tube de 1990, You Can't Touch This, du rappeur MC Hammer. Vous écoutez France Culture, Le Secret des Sources.
Je voulais faire le point sur l'affaire de dopage à Toulon avec RTL. Bon, je pense que maintenant, tout le monde a compris que cette affaire était une énorme escroquerie médiatique de la part de RTL, d'une journaliste qui a dû avoir une information qu'elle a jugée clitoridienne lorsqu'elle l'a su et qui a juste omis de me téléphoner, tel que le ferait un bon journaliste. Elle s'est contentée de faire une enquête à charge. C'est d'une stupidité absolue. Elle nous a fait perdre une semaine, cette nana. C'est pas la première fois, parce qu'elle a un pédigré quand même. Avec sa tête à la Pierre Péan féminin, alors qu'elle n'a pas le talent, elle a un pédigré.
Mourad Boudjelal, président du rugby club de Toulon, la semaine dernière, en conférence de presse, qui s'en prend violemment à une consoeur de RTL et qui met aussi en cause votre journal, L'Équipe, Dominique Issertel. RTL, en rappel l'histoire, a parlé de soupçons de dopage après l'ouverture de deux enquêtes, l'une à Toulon, l'autre à Marseille, des enquêtes qui visent des pharmacies qui ont travaillé avec le rugby club toulonnais. Alors RTL a réagi, la société des journalistes de la chaîne aussi, en faisant part de son dégoût, en parlant d'une misogynie affligeante et qualifie de déplacé, insultant et menaçant les propos tenus par Mourad Boudjellal. Mourad Boudjellal a déjà tenu dans le passé des propos qui ont fait polémique. Hein. Il a été condamné à une amende pour injure envers un arbitre. Dominique Sartel, est-ce que le président de Toulon libère le sexisme dans le rugby, comme on a pu le lire dans la presse?
Je ne suis pas sûre qu'il n'aurait pas été d'une violence, qu'il n'aurait pas traité un journaliste homme avec la même violence. Évidemment, quand c'est une femme, on peut pas s'empêcher. Enfin, il n'a pas pu s'empêcher de rajouter un mot dégradant, enfin ou vulgaire. Péjoratif, vulgaire, que l'information était clitoridienne. C'est facile, c'est facile. Mais à mon avis, c'est pas le rugby qui est en cause là. C'est le dopage, à mon avis, qui provoque cette réaction très virulente.
C'est difficile de parler de dopage dans le rugby?
C'est difficile d'en parler dans tous les sports, oui. Pour avoir traité le cyclisme et vu les gens nier pendant des années...
C'est difficile, mais on en parle dans le vélo.
On en parle, mais ça a mis longtemps à être accepté dans le peloton. Je peux vous dire que il y a 10 ans, on parlait de dopage, on était au banc du peloton. Maintenant, je pense que si dans le rugby il y a du dopage, quand les journalistes vont révéler, elle n'a pas fait une enquête à charge, elle a juste, cette journaliste, révélé une information qu'une enquête était ouverte contre le rugby club toulonnais. Peut-être qu'elle a été maladroite en disant que c'était pour des faits de dopage et que c'était un petit peu exagéré, on n'en sait rien, de toute façon l'enquête le dira, mais c'est un sujet très très sensible qui fait réagir les sportifs au quart de tour.
Cécile Gray, une réaction à ce que vous avez...
Oui, j'étais très surprise de ces mots, puisque je considère Mourad Boudjellal comme quelqu'un d'assez intelligent, voire de très intelligent. Et j'ai vu sur les réseaux sociaux, je ne sais pas si on peut dire qu'il a libéré le sexisme, mais j'ai vu beaucoup de gens se gauser de ces mots-là, en rire, alors que c'était absolument pas drôle. Alors évidemment, il y a ce mot clitoridien, mais il a aussi parlé d'outreau, du rugby, qui est tout aussi déplacé. Et quand on est président de club, et d'un club qui a une telle ferveur, on dit que les Toulonnais sont des fadas, dans le bon comme dans le mauvais sens parfois, et je pense qu'il faut mesurer certains propos, et je crois que là, il a été un petit peu loin, et j'ai trouvé ça très dommage, en fait, puisqu'en plus, quand on n'a rien à se reprocher, ce qui est le cas, a priori à Toulon, on réagit pas avec cette violence-là.
Fanny Le Chevestrier, vous nous parliez d'un épisode que vous aviez eu avec Bernard Laporte et également à Toulon. Mourad Boudjellal, c'est quelqu'un qu'on interviewe avec précaution? Comment on se comporte avec une personnalité lui?
C'est plutôt un personnage affable, mais effectivement, dès qu'il est Il se sent attaqué, l'homme se sent attaqué, il réagit violemment. Et je ne sais pas du tout pour excuser ses propos qui sont très choquants et totalement inadmissibles. Mais que ce soit une femme journaliste ou un homme journaliste, la violence, je suis d'accord avec Dominique Sartel, aurait été pour moi la même.
Dominique Sartel.
J'aurais pu ajouter que, pour rebondir sur les gens qui rigolent des informations, c'est vrai que ça a été repris sans recul, sans filtre, sur beaucoup de sites internet, les propos de Mourad Boudjellal. Et il a fallu que la société des journalistes de RTL fasse un communiqué pour que les gens qui rédigeaient qui retranscrivaient ces propos commencent à émettre un petit bémol et se demandent si ce qu'il avait dit n'était pas outrancier. Il y a eu pendant quelques heures, toute une vague de sites de dépêches, de petits élèves sur les sites internet qui retranscrivaient ces propos tels quels. Le rôle des journalistes, c'est peut-être aussi de mettre un petit peu de distance et d'analyse et un filtre à ces propos qui sont outranciers.
Mais au-delà de cette affaire entre Mourad Boudjellal et notre consoeur de RTL et la radio RTL, est-ce que vous avez le sentiment, Fanny Le Chevestrier, que lors des après-matchs, lors des interviews, vous vous interviewez les joueurs ou les dirigeants comme un confrère homme.
Oui, après moi je vais avoir mes questions. Mm-hmm. Donc je vais pas forcément les poser de la même façon qu'un homme. Est-ce que c'est parce que je suis une femme que je les pose comme ça ou est-ce que c'est parce que c'est ma personnalité? Ça je sais pas, mais en tout cas, ils me répondent de la même façon, il n'y a pas aucun dédain vis-à-vis parce que c'est moi qui pose une question. Si ma question est nulle, ils vont me le dire, mais comme ils l'auraient dit à mon confrère.
Alors, la Coupe du Monde de rugby a démarré hier. Il y a un gros favori, hein, comme à chaque fois, c'est les All Blacks, les Néo-Zélandais. Dominique Sertel, vous avez vu de près lors d'une tournée les All Blacks. Ils sont impressionnants.
Oui, ils sont impressionnants et ça fait longtemps. Et cette année-là, c'était en 1990, ils avaient une tradition un petit peu brutal, c'est-à-dire qu'en fin de tournée, la tradition dans le bus des All Blacks, c'était que les anciens de l'équipe, donc les stars, alors cette année-là, c'était John Kirwan.
Mais ils acceptaient les femmes dans leur bus.
Alors, bon, là, c'est pour la petite anecdote, ouais. J'étais là un petit peu par hasard, c'est que j'avais rencontré la fille du sélectionneur Alex Wiley, qui avait mon âge, qui faisait ses études en Angleterre, qui suivait la tournée de l'équipe de son père, qui ne savait pas où loger. Je l'avais rencontrée dans une troisième mi-temps, justement, et je l'avais invitée à venir loger chez moi à Paris les 4 ou 5 jours, pendant 4 ou 5 jours. Et pour me remercier, elle avait demandé à son père si je pouvais passer la dernière soirée avec les All Blacks. Donc, on n'avait pas pu aller au banquet. On avait récupéré tout le monde à la sortie du banquet. On était montés dans leur bus. Et là, dans le bus, il y avait eu la bagarre des All Blacks. C'est donc les jeunes joueurs qui, symboliquement, doivent prendre la place des anciens en fin de tournée. Donc, déloger les Sean Fitzpatrick, Richard Lowe, John Kirwan, Grant Fox, des sièges arrière du bus en allant carrément leur mettre des coups de poing dans la gueule.
Mais c'est un jeu ou une bagarre?
Non, c'est une bagarre. Hein. Vraiment, le chauffeur du bus était paniqué parce que quand tous ses corps se mettent en branle et se battent dans un bus, ben, le bus, il vacille. Alex Wiley, qui ressemble à un grizzly, on l'appelait comme ça, le grizzly, il rigolait comme un bossu, il disait « vous inquiétez pas », le chauffeur conduisait, il était paniqué. Et puis quand le bus s'est arrêté, les joueurs sont sortis, ils fumaient et il y en avait un qui avait le pilier Richard Lowe, qui avait la chemise toute couverte de sang. Et pour avoir discuté avec Simon Mannix, qui est l'entraîneur de Pau aujourd'hui et qui était un des jeunes joueurs de cette équipe, c'est lui qui a fait saigner Richard Lowe. Il m'a dit qu'il avait gardé la chemise dédicacée de Richard Lowe et qu'il l'avait toujours dans son placard.
Merci beaucoup Dominique Sertel. J'ai dit que vous avez eu la chance de suivre l'All Blacks. J'en suis moins convaincu après.
Ils ont arrêté cette tradition. Je crois que ça faisait un petit peu de bruit dans leur pays. Ils trouvaient ça un petit peu barbare et ça a été arrêté, je crois, une ou deux saisons après.
Merci à nos invités France-Italie ce soir pour le premier match des Bleus en Coupe du Monde et vous nous expliquez dans l'équipe d'hier, Dominique Sertel, que la France a beaucoup de chance de jouer contre l'Italie, en tout cas a la chance d'avoir une équipe en face qui manque cruellement d'un numéro 10, mais on verra ce soir le résultat du match. Le clin d'œil de l'émission, comment les femmes doivent-elles se comporter, exercice libre de Yacine Bouzard avec deux conférenciers qui ont participé cette année au Salon de la femme musulmane.
Ce programme vous est présenté par l'Amicale des animaux de compagnie.
Un escalier de fer, un couloir étroit et obscur. Au fond de ce couloir, une porte entrouverte d'où nous parviennent les accords d'une musique qui en ce lieu paraît irréelle.
2014, Nader Abou Anas.
La femme, elle ne sort de chez elle que par la permission de son mahram, de son mari.
Le sombre monarque débarque et étale son pouvoir, la puissance de l'ombre s'installe.
Le soir, il a un besoin, il a une envie, elle lui dit non.
Je vais explorer le royaume de tes peurs en devenir le dictateur pour mieux te dominer.
Et elle ment en disant je suis fatigué, je peux pas. Et l'homme, il craque. Et ben qu'elle sache que les anges la maudissent toute la nuit dans le cas où elle se refuse à son mari sans raison valable.
Petit présomptueux, ne vois-tu pas le nombre déployé?
2013, Mehdi Kébir.
Combien de jeunes femmes de nos jours sortent, parfumées et embellies et maquillées?
Tu appartiens au sinistre sombre seigneur vêtu de noir.
Comment est-ce que le père pourrait accepter voir sa femme sortir de cette façon? Comment est-ce que le frère pourrait accepter voir sa sœur sortir ainsi?
Si tu te sens seul, prends un chien.
Le clin d'œil de Yacine Bouzard. L'actualité de la semaine à l'étranger, au Proche-Orient, où l'on retrouve Étienne Monin, correspondant de France Culture à Jérusalem. Shana Tova, salam alaikum Étienne.
Malaikum salam et Shabbat shalom.
Alors le sport fait rarement la une des journaux chez vous et cette semaine a été marquée par trois jours de violence et de tension à Jérusalem sur l'esplanade des mosquées au mont du Temple lors du nouvel an juif, Étienne.
Oui, c'est parti très soudainement, un peu comme une nappe de gaz qui s'enflamme autour donc de l'esplanade des mosquées sur la journée de dimanche. Et cette tension est encore forte aujourd'hui. La tension à Jérusalem, ça veut dire des affrontements entre des jeunes palestiniens et des forces de l'ordre dans certains quartiers de la partie annexée de la ville et des agressions contre des maisons juives dans certains secteurs frontaliers comme le quartier Armona Natsiv au sud-est de Jérusalem. Comment ça se passe? Ce sont des actions éclairs comme un bus la nuit dernière qui a flambé. Ou alors des groupes qui sont face aux policiers, ça se fait à coups de pierre, de cocktails Molotov ou de feux d'artifice à tir tendu. Cette pression des pierres a déjà fait une victime côté israélien. Le pays a été profondément touché par la mort d'un homme de 64 ans dimanche soir, victime d'un accident de la route provoqué par un jet de pierre, d'après l'enquête de police. Cela pourrait avoir d'ailleurs des répercussions en termes de sécurité publique, puisque le gouvernement étudie la possibilité de changer les règles d'engagement pour la police, qui n'a pour l'instant pas le droit de tirer à balles réelles pour le maintien de l'ordre à Jérusalem, contrairement à l'armée en Cisjordanie.
Mais d'où vient cette montée de tension, Étienne ?
Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle n'a jamais vraiment disparu depuis l'été 2014, depuis la guerre à Gaza. Il y a eu des pics et puis un reflux en décembre. Et si on doit chercher un point de fracture, on peut le situer cet été, fin juillet. Il y a un événement qui a bouleversé toute la région. La mort d'un bébé de 18 mois dans l'incendie de sa maison en Cisjordanie. L'enquête n'a toujours pas débouché, mais les premiers indices portent le soupçon sur les colons extrémistes. C'est un premier facteur qui a déclenché une série d'incidents en Cisjordanie et autour de Jérusalem. L'autre facteur, on va dire l'étincelle dans cette nappe de gaz, c'est ce qui se passe aujourd'hui autour de la mosquée Al-Aqsa. L'esplanade des mosquées pour les musulmans, le mont du temple pour les juifs, c'est un nœud dans le conflit qui les oppose. L'endroit est sacré pour les deux religions et défendu par les plus radicaux des deux camps. En 1967, quand Israël conquiert Jérusalem-Est, le général en chef Moshe Dayan estime qu'il y a une trop forte charge religieuse et symbolique dans le monde arabe vis-à-vis de cet endroit qui est considéré comme le troisième lieu saint de l'islam. Il a donc laissé un équilibre se créer. Il fonctionne sur un statu quo qui laisse la gestion du mont du temple aux Jordaniens, au nom du monde musulman, mais qui autorise quand même les juifs à s'y rendre, sous condition avec interdiction d'y prier pour conserver son caractère musulman. C'est ce statu quo aujourd'hui qui est en jeu. Le premier ministre israélien a beau répéter qu'il ne veut rien changer, les musulmans soupçonnent les Israéliens de vouloir partager cet endroit. Ce qui fait monter l'inquiétude, d'après un rapport de l'International Crisis Group, c'est l'influence grandissante de certaines mouvances juives qui revendiquent la souveraineté sur ce morceau de terre. Ils ne sont pas nombreux, d'après les observateurs ici, mais ils incitent leurs fidèles à monter sur l'esplanade, soutenus par certains ministres qui l'ont fait ostensiblement le week-end dernier. Il y a plusieurs mouvances, et vous avez l'entendre dans le discours, c'est clair, en tout cas, pour ceux qui veulent reconstruire un temple dans cet endroit. Le projet est porté par l'Institut du Temple, dont fait partie Jean-Marc Rosenfeld.
Je crois que chacun a le droit de monter sur l'esplanade du Temple, puisque le Temple de Jérusalem existait et tout le monde pouvait y prier. Et c'est ce qu'on veut seulement transmettre, c'est que le monde puisse prier sur l'esplanade sans créer de problème, mais il y a de la place sur l'esplanade. Il est bon que l'on revienne à ce lieu saint et on dit tout le monde a le droit de prier sur ce lieu-là. Pourquoi pas ?
Donc, à l'approche des fêtes juives, un groupe de jeunes musulmans s'est installé dans la mosquée Al-Aqsa pour tenter d'empêcher les visites. La police est intervenue et ça a provoqué le début des affrontements sur ce secteur. Mais s'il y a un espace aujourd'hui pour les radicaux, c'est aussi parce qu'il n'y a plus d'horizon pour une solution de paix. Les derniers pourparlers ont été rompus au printemps 2014 et cela explique cette tension sporadique dit Dani Sheikh. C'est un ancien ambassadeur d'Israël en France, politiquement investi sur la gauche de l'échiquier.
Il n'y a rien qui se passe depuis bien trop longtemps et c'est la raison pour laquelle on retrouve des foyers de tension qui émergent de temps en temps. Je pense qu'il y a de part et d'autre des groupes politiques et autres qui ont intérêt à faire monter la tension de temps en temps mais je ne pense pas que ce soit la majorité. Je crois que ce qu'on appelle le mainstream dans l'autorité palestinienne et dans le gouvernement israélien préfère le calme.
Cette affaire autour de la mosquée Al-Aqsa a mobilisé le monde arabe. C'est dire si c'est un sujet sensible. François Hollande a pris position pour dire que toute remise en cause du statu quo de 1967 risquerait d'être un facteur de déstabilisation.
Étienne Monin, correspondant de France Culture à Jérusalem. Merci à tous nos invités, l'émission se termine. J'ai eu le plaisir de recevoir ce matin Dominique Essertel, journaliste à l'Équipe, Cécile Gray, journaliste rugby pour Eurosport, Fanny Lechevestrier, journaliste à France Bleu 107.1 et qui suit le Stade français. Merci également à Pierre Galli en duplex de Londres, Pierre Galli, chef du reportage au service des sports de l'AFP, co-auteur avec Jean-Pierre Dorian de Rugby 150 ans d'histoire qui vient de paraître aux éditions du Nouveau Monde. Dans les coulisses de l'émission, Mathias Mégy, Vincent Abouchard pour la préparation, la réalisation et le site franceculture.fr avec aux manettes aujourd'hui Emmanuel Morse-Duncan. Le clin d'œil de la semaine était signé Yacine Bouzard, Étienne Monin, correspondant de France Culture à Jérusalem que l'on vient d'entendre. Merci, je vous signale, et c'est important, la parution de France Culture Papier, édition automne 2015. France Culture Papier consacré, non pas au rugby, mais à l'histoire du djihad, des Omeyyades à Daesh. France Culture Papier, disponible en librairie et en kiosque. Dans un instant, le journal de Mathieu Laurent, suivi de répliques, les mots de l'école et les moyens d'y remédier. Alain Finkielkraut reçoit François-Xavier Bellamy, François Dubé et Marie Durubella. C'était Le Secret des Sources sur France Culture, à retrouver sur franceculture.fr. Rembobinage, le journal, réplique. Bonne journée sur Culture. Vous êtes journaliste bord terrain pour Eurosport. C'est-à-dire, vous nous racontez les secrets de la touche pendant le match.
Ouais. Ce qui est très impressionnant la première fois, parce que là, pour le coup, on est vraiment seul au milieu d'hommes, prêts à rentrer sur le terrain, donc très motivés, plein de testostérone.
Au-delà des femmes journalistes, il y a aussi le sport qui s'est féminisé en lui-même.
Un journaliste homme qui suit le rugby pense parfois qu'il connaît les règles par cœur, qu'il est très très fort techniquement, tactiquement, qu'il peut sélectionner l'équipe. Une femme, elle se positionne pas comme ça, donc elle écoute ce que lui dit le joueur ou l'entraîneur et peut-être qu'elle le retranscrit de manière plus simple pour les lecteurs.